Première, 14h-15h, le samedi, Kiosk, Cynthia Isarelli.
Bonjour, vous tombez bien. Aujourd'hui, dans Kiosk, on guette nos petites failles et on attend nos grandes métamorphoses. Parlons de nos névroses. Tiens, vous savez, ces petites manies, ces angoisses minuscules qui nous habitent tous et toutes et qui parfois finissent par prendre toute la place. Eh bien, dans Névrose banale, la chorégraphe Betty Mention et sa compagnie ont eu la bonne idée de transformer ces fragilités très humaines en matière chorégraphique explosive. Sur scène, ça s'emballe, ça tourne en boucle et les troubles anxieux font des entrechats. Quelque part entre la comédie musicale décalée, la danse contemporaine évidemment et l'humour grave. La banalité de nos tourments devient un ballet incontrôlable. Betty Mention et Mehdi Bédouin, co-metteurs en scène du spectacle, sont nos invités aujourd'hui. On fera un pas de côté également avec le festival Métamorphose au théâtre Varia à Bruxelles. Pendant 3 jours, artistes de Belgique et d'ailleurs y viennent pour explorer les transformations du vivant, les glissements du réel et les failles, tiens encore une fois, qui deviennent des espaces de création. Parmi les propositions Vacances Vacances, un solo d'Ondine Cloez, étrange et hypnotique voyage entre pensée et mouvement. Une pièce qui cherche littéralement à faire apparaître le vide. On en parlera avec Ondine Cloez et Colleen Streuf, directrice du Varia. Et puis au comptoir du kiosque aujourd'hui, il y a Fanny Cuisset, bonjour.
Bonjour Cynthia, bonjour à toutes et tous.
On retourne à l'école aujourd'hui.
Oui, et parfois ça provoque un peu d'anxiété. On verra cela avec Assis sur ma chaise du Théâtre des Quatre Mains.
Ce sera tout à l'heure dans votre chronique de la semaine. Merci à Amélie Courtin, merci à Perrine Lucas qui prépare cette émission. Et puis merci à vous d'être là. Allez, le kiosque est ouvert, c'est parti pour un tour.
Kiosque sur la première.
Dans l'imaginaire collectif, la danse reste souvent associée à l'idée de grâce, d'harmonie, d'une forme de maîtrise du corps. Et pourtant, le corps dansé n'est pas si différent finalement du corps dans la vie. Il doute, il dérape, il s'emballe et il résiste. Alors que se passe-t-il quand on décide de partir à la rencontre de ces déséquilibres-là, de ces obsessions, de ces contradictions et de ces petits dérèglements intérieurs pour les danser? C'est ce que font la chorégraphe Betty Mention et la compagnie Play Me a Dance dans Névrose banale. Charge mentale, injonction sociale, crise existentielle, tout cela là fait partie du spectacle et devient matière chorégraphique. Sur scène, ça s'emballe, ça déraille et l'absurde du quotidien devient un ballet à la fois drôle et vertigineux. Betty Mention et Mehdi Bédouin sont nos invités. Bonjour.
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 Et bienvenue dans le kiosque. Betty Mention, vous êtes danseuse, chorégraphe, belge. Vous avez été formée au hip-hop, d'abord en Belgique et puis à Paris. Vous développez depuis plusieurs années un travail très personnel à la croisée de ces disciplines. Vous avez votre compagnie Play Me a Dance, que vous avez donc cofondée. Mehdi Bédouin, vous êtes comédien, pédagogue en théâtre mouvement et en jeu masqué. Vous venez donc davantage du théâtre et du clown aussi, on en reparlera. Vous accompagnez la mise en scène du spectacle et donc ensemble, vous signez cette mise en scène de Névrose banale qu'on peut voir en ce moment au TTO, Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles. Première question, qu'est-ce qui vous a donné envie finalement de danser la névrose? Ou les névroses, parce qu'il y en a tellement finalement.
Moi, ce qui m'a donné envie de faire ça, parce que je travaille beaucoup le mouvement et de le rendre décalé, de le rendre moins beau, en fait, parce que j'ai grandi en devant me tenir droite, de rentrer mon vent, de rentrer dans les écoles pour le cours de danse classique, mm-hmm. où en fait tout doit être gracieux, tout doit être beau. Et j'en ai eu un peu marre parce que je ne fitais pas dans cette convention-là. Et donc, voilà, c'est ça aussi qui me donne envie de détourner un peu les codes et quand on a parlé un peu de la thématique qu'on voulait aborder avec mes collègues qui sont avec moi sur scène, ouais, c'est quelque chose qui nous est bien marré en fait, et c'est quelque chose dont on parle beaucoup entre nous aussi et qu'on avait envie de mettre sur scène.
Mmh. Alors on va la citer, hein, la distribution, il y a Isabelle Audouin, Roxane Hardy et Jérôme Louis et vous-même, hein, donc vous êtes 4 sur scène et c'est vrai que d'entrée de jeu, alors quand on fréquente un peu les spectacles de danse, on se rend compte que c'est de plus en plus le cas, mais quand on est encore dans cette image du corps de danseur ou de danseuse très lisse et très parfait, effectivement ce qui frappe c'est que vous avez 4 typologies différentes, très assumées, qui sont augmentées en plus par les tenues. Ça pose aussi effectivement la question de cette injonction à la perfection, c'est une vraie question ça, dans le cursus des danseurs et des danseuses.
Oui, complètement, et même si les choses commencent un peu à changer, mais c'est vrai que dans le milieu plutôt mainstream qu'on voit à la télé, tout ça, ça reste quand même très très strict à ce niveau-là. Si tu fais pas 1m70, tu peux pas passer un casting. Si tu fais autant de kilos, enfin ça reste quand même très présent. Ou alors ça va à l'inverse, on cherche des gens qui sont complètement différents, mais en fait on les cherche pour leur physique et pas pour leur art.
Oui.
Et donc pour moi c'est aussi problématique, je trouve. Donc on reste quand même dans cette convention-là, très physique au final.
Mmh. On va se pencher plus avant après sur les détails du spectacle. Mais dites-vous, on l'a dit, vous venez du milieu du théâtre et vous travaillez beaucoup le clown aussi. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce projet et comment votre background à vous, comment votre formation à vous est venue contaminer, si je puis dire, la mise en scène ?
Moi, je travaillais déjà en jeu clownesque et particulièrement un spectacle qui tourne pour l'instant, qui traitait justement des injonctions de beauté. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent beau? Est-ce que c'est important de se sentir beau? Et j'avais rencontré Betty lors de formation clown. Et ce côté du mouvement atypique de quelque chose qui allait un petit peu, qui allait un petit peu au-delà des conventions, un côté même subversif parfois dans le mouvement, m'a beaucoup intéressé et la collaboration a commencé. Et en fait, la rencontre se fait sur le fait que, je dirais qu'en jeu clownesque, on s'assume complètement d'une certaine manière. Le matériau brut avec lequel on joue, c'est avant tout soi-même. Et donc, la rencontre avec ce groupe-là, ça a été de travailler sur leurs individualités. Mm-hmm. Et de là, de les pousser en extension et de sortir, je dirais, un peu le pire et le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ça qu'on met en jeu, en fait. C'est vraiment ce côté d'accepter de se laisser voir, d'accepter d'être juste là dans toutes ses défauts, dans toutes ses faiblesses et dans toute sa beauté aussi. Enfin, voilà.
Ça pose la question du contrôle aussi, parce que, alors, on dit, j'ai jamais fait de clown, mais il paraît qu'on dit qu'on a chacun un clown en soi, qu'il est assez unique et que donc on doit trouver son clown. Et c'est vrai que quand on sait que vous avez travaillé ensemble, on voit des danseurs et des danseuses un peu clownesques. Il y a des choses très exagérées, il y a des mouvements. On sent aussi que chacun et chacune a des préoccupations très précises. Votre personnage, par exemple, elle cherche l'amour et la sensualité. Il y en a un qui essaye désespérément de se cacher. Il y en a une qui est très anxieuse. Faire danser un clown ou être danseur et assumer sa part de clown, c'est contre-intuitif ?
Non, je dirais pas. Ça dépend.
C'est ce que vous cherchez, en tout cas.
Moi, c'est ce que je cherche, ouais, vraiment, parce que le clown, c'est un art qui me passionne et de plus en plus. Et ça fait 4 ans maintenant que je suis dans le milieu du cirque et je tourne beaucoup en rue. Et donc, j'ai vraiment petit à petit découvert ça de plus en plus. Et ça me touche énormément. Et je trouve que c'est un chemin qui est beau et qui est long, et mais qui prend une vie, mm-hmm. mais qui pour moi fait tellement sens parce que. Ouais, j'ai envie d'assumer ces défauts-là qu'on a, et c'est ça qu'on met en avant aussi, et de s'assumer tel qu'on est. Et c'est peut-être un peu contraire, on va dire, oui, à la danse où on est censé juste être dans le paraître, parce que on est censé avoir de la technique, on est censé faire des choses qui sont bien. Enfin, ouais, il y a tout ce côté-là, et là, c'est d'allier les deux, qui est quand même un challenge conséquent. mais moi, je trouve ça passionnant. Moi, j'adore, ça m'éclate, quoi. Mm-hmm. Ça, ouais.
Mais je peux, en tout cas de mon côté, dans l'absolu, au départ, c'était contre-intuitif. Mmh. On nous a un peu appris au théâtre que la danse était un peu l'antithèse de ce qu'on devait faire. C'est-à-dire, ces gens respectent des métriques, ils respectent des temps, alors qu'au théâtre, bon, c'est tout sur l'organique, c'est tout sur le jeu. C'est un, deux, et puis on verra bien, peut-être trois, et pas un, deux, trois. Et donc, la rencontre, elle s'est faite là aussi. Il y a eu vraiment une rencontre artistique dans le fait de se dire... pour eux, de sortir de la métrique et d'aller dans ce spectacle, la part du silence est aussi très grande. Oui. Aussi vraiment beaucoup de moments de silence où le danseur ne peut plus se cacher et ne peut plus que être à la rencontre entre lui et le public. Et donc ça aussi, c'est aussi quelque chose qui est très important dans notre travail. C'est que on travaille à la rencontre du public. Être vu, c'est être vu par qui ? Mm-hmm. Par ceux qui sont là. Et puis, est-ce qu'on va pouvoir se reconnaître les uns les autres ? C'est ça un peu l'enjeu du spectacle.
Alors, il y a un autre aspect qui est quand même très important dans ce spectacle, c'est que c'est certes un spectacle de danse, mais c'est un spectacle comique. Et là encore, on peut être pris au dépourvu parce qu'on ne s'attend pas forcément à se marrer en venant voir un spectacle de danse. Or là, c'est ce qui se passe quasiment dès les premières minutes, encore une fois, parce qu'il y a un petit peu de jeu, mais aussi parce que tant dans les tableaux d'ensemble que dans les moments de solo, vous allez très très loin dans vos délires respectifs et collectifs. Comment on fait rire en dansant finalement, alors qu'on a tous et toutes tellement peur d'être ridicule en dansant aussi.
Bah oui, c'est ça tout. Ça a été dur pour nous, hein, parce que c'est vrai que, et c'est pour ça que la présence de Mehdi était obligatoire, parce que sinon on n'y serait pas arrivé, parce que c'est un chemin qu'on connaît pas, et c'est grâce à lui qu'on arrive à justement. Mais c'est un chemin qui est perpétuel où on est dans un inconfort total parce qu'on a l'habitude, nous, en tant que danseurs, d'avoir, comme il disait, des comptes et donc de respecter ces choses-là. Et là, maintenant, on se retrouve toujours face à des situations d'impro où on est censé lâcher le mental et de se laisser aller dans une folie qui peut être différente tous les soirs, quoi. Mm-hmm. Et donc, je n'aurais pas vraiment de réponse à comment faire rire. Mais en tout cas, là, nous, dans notre processus en tant qu'interprète, c'est plus comment lâcher prise, comment déconnecter le cerveau et ne pas se dire « Ah, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Est-ce que c'est drôle ? Est-ce que c'est pas drôle ?» Non, c'est de laisser venir le personnage, de laisser venir l'envol qu'on peut avoir dans cette folie, quoi. Enfin, peut-être que Mehdi pourra mieux argumenter là-dessus, mais...
Le clown, c'est l'art de la parodie. Mm-hmm. Alors, quand on veut parodier le monde, quand on veut qu'il y ait des choses sur lesquelles, dont on a envie de parler, ici en l'occurrence c'était les névroses, mais quand on veut parodier le monde, la première chose dans ce chemin-là, c'est de trouver le chemin pour se parodier soi-même. Et donc, toute l'aventure a été d'arriver à se parodier soi-même et les uns et les autres, et de là trouver une légitimité à parodier le monde, et voilà.
Alors, les quatre personnages, pendant cette quasi heure et demie, ils vont traverser différents états de crise ordinaires. Alors, les situations ne sont pas franchement toujours nommées ou très cadrées, mais on reconnaît des choses. Il y a un moment, par exemple, où vous regardez tous et toutes la télé, et puis ça part en moment de folie ou en moment d'angoisse. Il y a des moments de danser qui pourraient être n'importe quelle soirée dansante. Ouais. Il y a des moments de solitude aussi, des moments d'intérieur. Qui sont ces personnages finalement ? Est-ce que vous leur avez inventé une histoire, vu qu'ils n'ont pas de nom et ils n'ont quasiment pas de dialogue ? Et comment ça s'est construit entre vous quatre ?
Alors, en fait, au début, on était parti sur une histoire. Et en fait, plus on avançait dans le processus de création, plus on s'est rendu compte que ça nous mettait plus des bâtons dans les roues et que ça nous enfermait dans quelque chose où on ne voulait pas forcément, en fait, raconter une histoire de quatre colocataires qui vivent dans un appartement et machin. Et donc, on a changé un peu toute l'idée de la scéno parce qu'on voulait revenir à quelque chose de plus simple, parce que ce qui, pour nous, est important dans ce spectacle, c'est de montrer l'humain. C'est pas forcément de raconter une histoire qui a du sens. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré partir sur des formes de tableaux qui, comme vous le dites, donnent des situations qui sont parfois claires, comme la situation de la télé, mais ce qui se passe avant, après, n'est pas forcément lié, c'est vraiment des situations. Et puis en fait, c'est avec le travail du clown, avec Mehdi, qu'on a petit à petit construit nos personnages qui viennent de nous, parce qu'en fait, les névroses qu'on monte, c'est réellement les nôtres. Et donc, c'est confrontant, parce qu'il y a eu des pleurs, il y a eu... Comment on m'a dit, vous avez dû vous marrer et tout. J'étais, non, on a juste beaucoup pleuré, en fait. Et bon, on a aussi ri, évidemment, mais on a commencé à se trouver des petits noms. Jérôme, c'est Georges, Roxane, c'est Rita. Parce que ça nous aidait aussi de différencier le personnage et nous en tant qu'interprète, parce que parfois on se perdait dedans et ça nous touchait trop, en fait, de montrer ces choses-là à nu, quoi. Et donc on s'est dit, bon, faut qu'on prenne un peu de recul pour pouvoir en rire, pour pouvoir en jouer, parce que sinon on devenait trop au premier degré, quoi.
Ouais. Là, vous avez joué pour la première fois hier soir au TTO. On reviendra d'ailleurs sur le fait de jouer particulièrement au Théâtre de la Toison d'Or, mais est-ce que le danser, ce spectacle de soir en soir, ça permet aussi de mettre ses névroses personnelles à distance, autant que le personnage fictif qui les représente ?
Je dirais pas à distance, au contraire. Moi, ça me rapproche de moi et ça m'aide à m'aimer.
Mehdi ?
Je peux pas mieux dire.
On n'a pas encore parlé de la musique qui, forcément, est un peu la colonne vertébrale de ce spectacle. C'est un spectacle très, très pop. Hein. On entend du Beyoncé, on entend du Britney Spears, on entend des morceaux d'électro, tout un tas de morceaux que j'ai reconnus, mais dont je ne pourrais hélas pas citer les titres. Il faudra nous donner la playlist, d'ailleurs. Comment elle s'est construite, cette écriture musicale ? Pourquoi ces choix-là ? Et qu'est-ce qui vous intéressait ? Parce qu'on sait que ce n'est jamais anodin, le choix d'une musique, de venir calquer ces chorégraphies-là sur ces musiques souvent très populaires et très connues.
Ouais. Moi, ça fait un peu partie de ma patte chorégraphique, entre guillemets, c'est d'utiliser des trucs qui sont très connus et d'en faire des parodies, justement, d'où le lien aussi avec le clown, de parodier ces choses-là, parce que oui, on danse sur du Britney, mais on va pas faire ce qu'on attend sur du Britney, quoi. Et on va aller à l'inverse un peu de ces codes-là. Et puis moi, tout simplement, parce que c'est toutes les musiques que j'ai choisies, c'est des musiques que j'adore, sur lesquelles j'ai grandi, sur lesquelles j'ai dansé, sur lesquelles on s'amuse entre potes, aussi avec l'équipe. Et du coup, ça a été des choix qu'on a fait ensemble. On a fait des brainstorming avec des plein de musiques. Mais moi, mon but était quand même d'utiliser des musiques pop qui étaient connues au grand public pour parodier, pour que ça marche aussi, pour que les gens puissent reconnaître et soient surpris de la tournure que ça prend, en fait.
Oui, histoire de ne pas devoir en plus passer la barrière de s'approprier la musique avant de rentrer dans l'histoire.
Oui,
exactement. De cette manière-là, quelque part, le travail est plus facile pour le spectateur parce qu'il n'y a pas un second discours sur l'intention musicale ou sur ce que pourrait porter la charge musicale. Il y a juste qu'on va contrer les a priori. Souvent, on a choisi des morceaux qui, parfois, prônent une espèce d'hypersexualisation dans laquelle, justement, on va prendre, nous, le contre-pied et s'amuser avec ça. Donc, on part en terrain connu, dans un mainstream tout à fait assumé, mais pour mieux le détourner, en fait.
Et ça fonctionne, hein. Parce qu'effectivement, il y a des petits sursauts affectifs quand on reconnaît la musique et tout de suite, on sent le public en empathie. D'ailleurs, en parlant d'empathie, il y a aussi un jeu de proximité corporelle avec le public, hein, parce qu'à plusieurs reprises dans le spectacle, vous vous avancez, là en l'occurrence, c'est une salle avec un gradin, donc vous vous avancez dans le gradin, vous venez très très près, parfois même un peu trop près. C'est une façon de convoquer le malaise en miroir, de casser un peu comme ça ce quatrième mur et de venir danser un peu tout près parce qu'on sent le public se pencher vers vous et puis parfois revenir en arrière et à la fin vous convoquez les gens sur scène. À quoi vous sert ce jeu de yo-yo en fait de proximité avec le public ?
L'idée n'est pas de mettre mal à l'aise, donc si ça le fait, j'en suis désolée. Mais on est encore, je pense, en recherche de cette convention-là parce que évidemment qu'on veut casser le quatrième mur et qu'on veut se sentir proche du public. Mais là, par exemple, hier, c'était la première au TTO où on était... On a dû réadapter au lieu. Mmh. Et donc, c'est vrai que, par exemple, à un moment donné, on vient danser très près. Je me suis dit, oula, je suis un peu proche. Et que du coup, j'ai pas non plus envie de mettre les gens.
Mais ça crée des moments très drôles.
Mais
aussi.
Voilà, ça peut créer. Et ça, nous aussi, en tant qu'interprètes, de sentir à qui ça met mal à l'aise. Et l'idée, c'est de ne pas mettre mal à l'aise les gens. Et il y en a d'autres, ils adorent. Et donc, c'est de sentir ces choses-là. Mais
vas-y. Tout dépend ce qu'on entend par mal à l'aise, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est vraiment intentionnel ou si dans cette démarche, c'est pas un mal à l'aise où on va avoir envie de sortir de la salle.
Non, pas du tout.
C'est quelque chose qui fait que si on voulait faire un spectacle où tout le monde se sent à l'aise tout le temps, on ferait une animation avec un petit repas. Non, ici, l'idée, c'est qu'il y a un chemin aussi dramaturgique pour les gens et effectivement, c'est contrasté. Il y a une belle phrase qui parle du clown qui dit « le clown, c'est la tragédie qui s'est trompé de fin ». Et donc il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire qu'on flirte un peu sur le tragique et c'est ça qui est en même temps très drôle, mais en même temps fragile et fort à la fois. Donc voilà, cet enjeu-là par rapport au public, il est essentiel. Et puis, quelque part, le clown, il est obscène. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui fait qu'il peut s'autoriser. Il y a des moments où on se dit, ah, il ne va pas aller jusque-là. Ah si, ah non, si, il y va. Ah là 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 là, c'est pas vrai. Il dépasse les limites, là. Et c'est un peu le but aussi de ce travail. Et donc, il s'est aussi provoqué ça chez le public. Il se dit, oulala, il y a quelque chose qui dépasse la limite. Et d'ailleurs, au niveau étymologique, obscène, c'est vraiment ce que ça dit. C'est ce qui dépasse de la scène, hein, même. Un moment.
Voilà, finalement, l'étymologie a toujours raison. Et c'est vrai que malaise n'était peut-être pas le mot adéquat, mais effectivement, ça vient nous chercher sur nos chaises bien confortablement. Mais ça marche parce qu'au final, il y avait quand même énormément de gens qui vous ont rejoint sur scène à la fin pour venir danser. Et c'est vrai que c'était la première au Théâtre de la Toison d'Or. C'est le premier spectacle de danse aussi, je pense, que le Théâtre de la Toison d'Or accueille. Donc vous vous retrouvez face à un public qui n'est pas forcément acquis. À ce genre de spectacle, à ces codes-là. C'est une motivation en plus, c'est un défi.
Oui, quand même. Oui, carrément. Et puis c'est chouette. Hier, on a eu des super retours par rapport à ça, en disant on n'a pas l'habitude de voir ça au TTO, mais c'était super, ça fait du bien. Et puis ça a sa place ici, ça fait sens. Et donc pour nous, c'est un challenge. Mais on va voir au fur et à mesure des dates comment le public réagit. Mais ouais.
C'était une première fois au TTO, c'est la première fois que le TTO, en 30 ans, organisait de la danse, en fait.
C'est inédit.
Oui, c'est inédit.
C'est historique.
Et donc, mais je dirais que notre laissez-passer par rapport à tout ça, et c'est, même si le mot peut être parfois galvaudé, c'est l'amour. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on n'a pas dit encore dans ce spectacle, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et que, en fait, quand je parlais de parodie, on peut dissocier, là aussi je reste un peu sur les mots, mais la parodie, ce n'est pas la moquerie, ce n'est pas le pastiche, ce n'est pas quelque chose où on va se moquer. La parodie, c'est toujours de quelque chose qu'on aime beaucoup. C'est comme quand je vais me déguiser de la star que j'aime, et puis me regarder dans la glace et faire du mieux que je peux pour être celle-là. Donc ça part d'une démarche qui est quand même d'apprendre à s'aimer, aimer les autres, et puis il y a quelque chose qui se transmet là-dedans quand même. Et donc je pense que ça, c'est peut-être notre laisser-passer pour aborder ce public, quel que soit le public en fait. Ça, c'est un peu la clé avec laquelle on essaie d'ouvrir les portes. Et d'ailleurs, on regarde beaucoup, les acteurs regardent beaucoup les yeux des gens dans le public, il y a du contact visuel assez souvent. Et bon, voilà, on dit souvent que les yeux sont la porte de l'âme, donc on essaye de trouver des entrées, en tout cas.
Quatre clowns très très tendres qui dansent un peu trop fort, mais pour notre plus grand bonheur, Névrose banale, c'est donc à voir au Théâtre de la Toison d'Or jusqu'au 28 mars, dans la salle du Little TTO. Un spectacle donc qui vous promet de transformer vos petites catastrophes intérieures en chorégraphie libératrice, parce qu'on ne le dira jamais assez, danser, bordel, qu'est-ce que ça fait du bien. Merci beaucoup.
Merci,
Mehdi
Bedouin. Kiosque sur la première.
Cette semaine, la chronique de Kiosque prend place sur les bancs de l'école avec Assis sur ma chaise, nouvelle création du théâtre des quatre mains. Fanny Cuisset, vous êtes allée découvrir le spectacle pour nous. C'est un spectacle qui parle de l'échec scolaire, mais surtout de la possibilité de se relever. Allez, le pitch.
Alors, le pitch, c'est l'histoire de Blaise qui, quand il va à l'école, il y a une pierre au fond de son estomac et il se réfugie pour survivre dans un monde imaginaire à l'intérieur de sa tête. Et ce spectacle, il a été créé par Louison Deleu. Mmh. C'est sa première mise en scène et aussi son premier texte. On l'écoute.
Moi, ça fait depuis que je suis sortie de l'école à l'IAD que j'ai ce spectacle dans la tête. Enfin, en tout cas, j'avais envie de parler de l'école et parler des différences à l'école. Comment est-ce que quand t'es un individu qui galère en maths, qui a du mal à se concentrer, qui n'a pas justement un bagage culturel comme les autres, etc., comment est-ce que tu fais pour t'en sortir à l'école et pour prendre confiance en toi quand t'es pas égal aux autres, en fait ? Le fait que tu n'es pas fait pour le système, qui est le système scolaire, qui est assez rigide en fait. Comment tu t'en sors là-dedans? Comment est-ce que tu arrives à te développer et à t'épanouir?
Et ce questionnement sur l'école et les difficultés rencontrées par certains élèves, c'est directement lié à son histoire personnelle.
J'ai galéré vraiment une grande partie de ma scolarité, surtout en primaire en fait, étonnamment. Et j'ai pas de souvenir de profs malveillants ou de profs qui m'ont maltraité, mais j'ai plutôt un souvenir vraiment d'être tout le temps face à l'incompréhension. Donc vraiment tout le temps en train de me dire comment ça se fait que les autres y arrivent et moi, ça marche pas. Enfin, j'ai vraiment des souvenirs comme ça de stress qui m'envahit et de blocage. J'ai lu un livre qui s'appelle Chagrin d'école de Daniel Pennac. Il parle un petit peu de ce blocage et j'ai eu envie de vraiment aller au cœur de ce blocage et de voir qu'est-ce qui pourrait se passer à l'intérieur de ce blocage. C'est quoi exactement quand on bloque? Ça se passe où? C'est à cause de quoi? C'est lié à quoi? Voilà.
Ouais, donc c'est vraiment l'anatomie du blocage scolaire.
Exactement, et ça se passe aussi en primaire parce que ça s'adresse à un jeune public. Et donc ce blocage dans le spectacle, il est provoqué par un problème de maths. Et en fait, cet énoncé, il a été créé toute pièce par Louison et son équipe. Et c'est tout simple, c'est la cuisson des œufs à la coque. Et ça va emmener Blaise dans un monde imaginaire parce que malgré ce qu'il peut penser de lui-même, en fait, il est extraordinaire.
On dit au début du spectacle extraordinaire, il ne le sait pas encore. Mais tout à fait banal, il en est convaincu. Et tout son chemin, ça va être de prendre confiance en lui. Donc de prendre confiance en son imaginaire, en la force de son imaginaire, parce que c'est ça qui le sauve. Et de se dire, en fait, voilà, si j'enlève ma pierre, sa pierre, ça représente la peur, la non-confiance en soi, le stress d'aller à l'école, et que juste il est lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir à l'école, mais par contre, je pense que ça veut dire qu'il va se trouver. Et nous, on pense que c'est vraiment la chose la plus importante, finalement, pour un enfant, c'est de prendre confiance en lui, de s'émanciper, du regard des autres surtout. Et donc voilà, c'est toute sa quête, c'est un espèce de voyage initiatique en fait, à travers sa poésie qui ne lui appartient qu'à lui quoi.
La poésie des enfants.
Et c'est magnifique parce que cette poésie, ce monde imaginaire, on le découvre dans la deuxième partie du spectacle. Et ce processus d'écriture, il a été différent que pour la première. C'est un travail d'équipe mené par Louison Deleu et les deux comédiennes et comédiens, Mélissa Diarra et Adrien De Biasi.
Ce qui est rigolo, c'est que la première partie de la pièce a été écrite en amont du processus de création, jusqu'au problème, donc jusqu'à l'imaginaire de Blaise. Et comme la deuxième partie était beaucoup plus visuelle, etc., il a vraiment fallu qu'on fasse des ping-pong entre la scène et l'écriture. Donc souvent, on faisait plein d'impro. Et puis le soir, boum, je réécrivais sur les impro et le lendemain, on recommençait. Et on a essayé plein de créatures différentes, etc. On s'est aussi beaucoup amusé avec les mots du problème pour construire l'histoire. Donc on a transformé le mot sixième en sirène, etc. Et donc l'histoire, elle s'est vraiment conçue vraiment au fur et à mesure. C'était presque de l'écriture de plateau, en fait. Mmh. En tout cas pour la deuxième partie.
Et sur scène, Mélissa Diarra et Adrien de Biasi incarnent tous les deux Blaise.
Ah oui.
Oui, afin que tous les enfants puissent s'identifier en fait.
Ouais, bonne idée.
Mais, et en plus, ce personnage, il prend aussi vie grâce au théâtre d'objets parce que Blaise et ses camarades, ils sont représentés par des chaises d'école.
Une chaise d'école, on a tous l'image en tête de ce que c'est, avec les bords en métal, rouge bordeaux, le bois clair. Et c'est vraiment un symbole très très fort. Et à l'école, en tout cas moi, dans toutes les écoles où j'ai été, il y avait tout le temps cette phrase qui revenait « Asseyez-vous, allez, restez assis sur vos chaises, arrêtez de gigoter ». J'avais envie de vraiment ramener ce truc de « même si t'es figé, assis sur ta chaise, c'est pas pour ça que ton cerveau n'est pas libre ». Donc voilà, j'aimais bien ce truc un peu rigide, universel, et en même temps, dans cette universalité, trouver la différence. Blaise, on a un peu traficoté sa chaise pour qu'elle soit un petit peu penchée, pour qu'elle soit un petit peu branlante. Puis c'est quand même un spectacle qui est douloureux par moments, parce que bon, voilà, c'est quand même un enfant qui se fait humilier à l'école et qui se sent nul et bête et incompris. Et je trouve que parfois, transcender cette douleur par des objets, ça permet d'être plus accessible aussi.
Alors Fanny Cuisset, vous avez vu le spectacle, votre verdict ?
Il faut aller le voir. Franchement, je pense que chacun et chacune, on peut se retrouver dans Blaise, qu'on ait eu des difficultés ou pas à l'école. Et puis, ça parle aussi bien aux petits qu'aux grands et même aux profs, parce que les profs aussi, ils ont un désarroi et on le ressent dans cette pièce parce que ben, des fois, le système n'est pas idéal. C'est un peu ça le message. Et franchement, allez-y, la comédienne et le comédien sont incroyables. Il y a de la musique, c'est beau, c'est poétique. Il y a plein de personnages et je suis sortie de là et je me suis dit waouh, et les enfants ont tellement réagi pendant le spectacle. C'était beau à voir. Et voilà, ils étaient de Blaise, ils étaient à sa place. Ils étaient, allez, vas-y! À un moment donné, il y a cette scène trop rigolote où il ne sait pas où est l'est, l'ouest. Et les enfants sont là, c'est là, c'est là! Allez-y, foncez le voir, ça se passe. Ils viennent de commencer la tournée, donc il va y avoir plein de dates. Allez sur le site théâtre4mains.be. Théâtre4mains.be. Il
fera rendez-vous partout. Ouais. Oui, rendez-vous en tout cas en avril du côté de Chimay et d'Herstal. Et en mai à Beauvechain pour découvrir donc Assis sur ma chaise, nouvelle créa du Théâtre des 4 mains. Merci Fanny Cuisset.
Merci à vous.
Kiosque sur la première.
Changer de forme, changer de regard, changer de récit. La métamorphose, c'est peut-être l'un des gestes les plus anciens de l'art, finalement. Au Théâtre Varia à Bruxelles, le festival Métamorphose revient pour 3 jours de propositions hybrides, du théâtre, de la danse, des performances, tout ça venu de Belgique et de plus loin. Un festival qui invite à regarder autrement le vivant, à bricoler nos failles et inventer d'autres façons d'être ensemble. Parmi les spectacles présentés, il y a notamment Vacances, Vacances, un solo d'Ondine Cloez, qui est notre invitée en compagnie de Colin Streuf, directrice du Théâtre Varia. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et bienvenue dans Kiosque. En une classe, je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes évidemment chorégraphe et performeuse. Colline, le festival s'appelle Métamorphose. C'est un festival qu'on connaît déjà bien. Comment ça résonne, ce titre, ce thème Métamorphose, pour vous, cette année, particulièrement au regard des arts de la scène ?
Ah, bonne question.
Vous avez 2 heures.
Surprise, oui.
Qu'est-ce que ça vous a inspiré en tout cas pour le programme de cette année ?
En tout cas, cette année, ce qu'on a cherché, c'est de trouver et retrouver du décalage, un peu aussi de respiration, c'est-à-dire comment à l'intérieur de ce monde qui nous oppresse, on arrive à faire des pas de côté, trouver des petits interstices pour quand même être ensemble, partager des choses, sourire, mais aussi interroger quand même ce qui nous arrive, mais plutôt à taille humaine.
Mm-hmm. De l'absurde, ouais. Donc un peu plus peut-être ?
Un peu plus, ouais, tout à fait.
Alors il y aura, on l'a dit, hein, du théâtre d'objets, de la danse, de la performance, on va dérouler le programme tout à l'heure, mais vu qu'Ondine Cloez est là, on va plonger d'emblée dans ce Vacances-Vacances. On l'a dit, vous êtes chorégraphe et performeuse, et dans ce spectacle, qui est votre première création, je crois, vous signez un solo assez particulier vu que ça commence sur un monologue qui devient peu à peu de la danse où vous nous parlez de la vacance, c'est-à-dire de l'absence, du fait de s'absenter mais parfois aussi d'être absent de son propre corps. C'est tout un programme. C'était quoi l'étincelle de départ pour en arriver à cette dissection étymologique du terme vacances ?
Alors, le point de départ, c'était vraiment, je suis partie en vacances.
Ok.
Très classique.
Basique.
Et en partant en vacances, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de soucis que j'avais, qui n'étaient pas forcément des gros problèmes, mais des soucis. Et avec la distance, quand je prenais le train et je m'éloignais, je me rendais compte que les soucis disparaissaient ou les problèmes s'évaporaient. Et pourtant, je les avais toujours. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que quand on part en vacances comme ça, on est capable d'abandonner des problèmes, des choses qui... Pourquoi on change d'état de manière si radicale? Et je me suis dit que c'était peut-être parce que quand on part en vacances, la place qu'on occupe habituellement est vide. Mmh. Et du coup, c'est à partir de ce vide, donc je ne raconte pas mes vacances, je rassure les gens, mais plutôt je parle de qu'est-ce qui se passe en fait quand on n'est pas là où on devrait être, quand on est ailleurs. Et comme je suis danseuse, bah, c'est le corps qui m'intéresse le plus. Donc je me suis dit aussi, c'est quoi tous ces moments où on n'est pas là, mais on n'est pas dans son corps non plus.
Ok, et comment on danse l'absence à soi-même? Ça semble, parce que quand on parle d'absence, on imagine l'immobilité, le vide. Comment ça se traduit finalement dans votre spectacle?
Alors assez vite, en fait, je suis arrivée à la grâce.
Oui.
Parce que voilà, on décrit aussi la grâce, c'est un gros boulet, j'allais dire, mais un gros fantôme de la danse, même de la danse contemporaine.
On en parlait juste avant avec nos
invités.
Ouais,
c'est un peu un, je sais pas comment dire, ouais. Un fantôme qui nous, dont on essaie de se débarrasser et pourtant qui revient toujours. Et la grâce, c'est un peu cet état où la personne est comme atteinte par quelque chose qui la dépasse et sur lequel elle n'a pas d'emprise. Mm-hmm. Et c'est un peu à l'encontre aussi de ce que moi, j'imagine être le travail de l'art, où c'est quand même, on doit travailler, ça ne tombe pas sur la tête comme ça. Et du coup, je me suis dit, mais comment ça se fait que ce truc de la grâce, il soit encore là? Et j'ai eu envie de la décortiquer. Et je suis partie de la maladresse. Parce que je suis un peu maladroite, mais je parle pas tellement de moi, mais je parle plutôt d'un ami, Clément, qui est très maladroit. Et donc, qui est toujours, pour moi, qui est toujours avant son corps ou en dehors de son corps. Et en fait, moi, je fais une danse qui est plus proche de la, une danse qu'on pourrait dire de la maladresse, mais qui finalement a la même définition que la grâce. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est en dehors de son corps, qui est atteint, à qui il arrive des choses, qui n'est pas là où il devrait être, et tout d'un coup, son corps se met à faire des mouvements qu'il ne contrôle même plus. Mmh.
Ça suppose, j'imagine, des mouvements, des figures, des moments de danse assez inattendus, qui ne sont pas dans la symétrie, qui ne sont pas dans la recherche, comme vous le disiez, d'harmonie et de grâce. Il y a une idée aussi de décomplexion, de dire ou de montrer au public qui vous regarde, bah, vous voyez, on peut être danseuse et ne pas bouger parfaitement.
Oui, ça c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager, parce que quand j'ai fait cette pièce, ça faisait déjà plus de 15 ans que j'étais interprète, donc je dansais ou je faisais du théâtre pour d'autres artistes. Et c'est vrai que oui, cette histoire de la virtuosité aussi, je me dis pourquoi on est encore occupé avec ça, alors qu'il y a aussi de la beauté dans des corps qui sont autres ou autrement, qui bougent. Ce truc de la technique aussi, comment on s'éloigne de ça. Et effectivement, moi c'est un truc qui m'intéresse de pourquoi on devrait s'identifier qu'à des corps qui sont mieux que nous. Et c'est aussi créer un rapport avec le public où bah, moi, je suis pas, je suis un autre corps.
Oui.
Et des fois, je trouve que c'est plus facile aussi de... Enfin, je sais pas, souvent, je pense au, par exemple, quand les gens font des discours dans les mariages. Et c'est pas des professionnels, et pourtant, on est traversé par des émotions, il se passe des choses, et il y a souvent de la maladresse, ils parlent trop vite, ils balbutient, enfin... Et tous ces endroits-là, c'est vraiment, moi, des endroits qui m'intéressent, et je me dis, mais la scène, c'est aussi l'endroit où on peut créer un rapport peut-être un peu plus horizontal, parce que le truc de la grâce et de la virtuosité, c'est aussi... les artistes sont là pour faire des choses que nous, le public, on est incapable de faire.
Ouais.
Et je crois pas que... Pour moi, c'est pas ça, l'art. C'est plus de... Qu'est-ce qu'on a en commun, en fait?
Ouais. Et qu'est-ce qui différencie, finalement, alors, celui ou celle qui est artiste de celui ou celle qui est public et qui regarde les artistes, alors?
Bah, idéalement, dans ce spectacle, si je reviens à vacances, à la fin, on est tous et toutes ensemble. On est un peu partis ensemble. On a des petites vacances. Enfin, je dis ça, peut-être on a eu des petites vacances. Et justement, moi, de plus en plus, je me dis, je crois pas qu'il y a une différence même entre l'art et la vie. Avant, j'avais envie que ce soit séparé aussi pour des questions
De bien ranger.
Ouais, de bien ranger et de bien être au travail aussi, parce que c'est quand même du travail.
Bien sûr.
Mais là, je suis plus dans un moment où je me dis, bah, peut-être c'est la même chose en fait.
Colline, je vous vois sourire et faire oui de la tête depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a convaincu, séduit particulièrement dans le spectacle d'Ondine et en quoi ça s'inscrit bien justement dans ce que Métamorphose essaye de faire?
Mais j'adore cette idée parce qu'elle dit, en fait, il n'y a pas tellement de différence entre l'artiste et le public, mais quand même, cette idée que l'artiste emmène dans un petit trajet, un petit voyage, et qu'on a, on a partagé ce moment, et que c'est quand même le guide de ce moment partagé. Et ça, je trouve que c'est très beau, en fait, juste ce temps partagé, c'est-à-dire, il y a l'absence. L'absence présence, parce qu'en fait c'est ça, c'est qu'on peut, pas tout à fait s'absenter au théâtre de soi, y compris les spectatrices. Et donc c'est l'idée de ce temps partagé, en fait, de ce temps décor partagé, je sais pas.
Ouais.
Et donc y a plein de choses qui résonnent avec d'autres spectacles du festival.
Par exemple, on va plonger dedans. Hein. Moi j'ai la liste sous les yeux. Des temps partagés, il y en a plein. Alors je vais aller à un endroit qui était peut-être pas forcément la porte d'entrée, mais je vais aller à la caravane des Muchettes, parce que là en termes de temps partagé, c'est un spectacle de théâtre d'objets qui se passe dans une toute petite caravane où en fait on est convié. C'est un spectacle tout public, donc aussi pour les plus petits, où on est convié à venir s'installer dans cette caravane où vivent les Muchettes, des petits êtres imaginaires qui ne sortent que la nuit, si je me souviens
c'est
bien.
Oui, tout à fait ça. Mais alors du coup, c'est parce que cette édition, on a décidé de faire un temps dédié aux plus jeunes, aux familles, le samedi après-midi. Et donc, il y a toute une série de spectacles qui s'inscrivent dans cette programmation-là, qui est vraiment du coup dédiée à l'idée de venir au théâtre avec ses enfants. Et la caravane des Muchettes, oui, c'est du coup une caravane aménagée avec du coup une partie caravane et une partie où il y a le public qui s'assoit. Donc, c'est une toute petite jauge, c'est vraiment, on est 25-30 à l'intérieur de la caravane. Et il y a l'actrice qui s'appelle Aline Mao qui, du coup, déplie une espèce de livre d'images à l'intérieur de la caravane où il y a, et donc commence à raconter sa cohabitation, parce que elle joue l'habitante de la caravane, sa cohabitation avec ses Muchettes, et ça lui permet d'ouvrir plein d'histoires très jolies, en fait, et qui prennent corps dans la scénographie de manière très différente. Et donc, en fait, c'est vraiment le mobilier traditionnel de la caravane qui se déplie pour tout d'un coup devenir un livre d'images, vraiment. C'est très, très, très fin comme ça, comme spectacle.
Ouais, et très, très poétique aussi. Ouais. Alors, pour rester dans le théâtre d'objets, il y a évidemment Métamorphose des Cariatides. Alors, évidemment, ça tombe bien. C'est le même nom que le festival. On peut peut-être rappeler aussi cette petite forme qui dure 25 minutes, mais qui est très, très belle.
Oui, tout à fait. Nous, c'est des collaboratrices de longue haleine, les Cariatides. Mm-hmm. Elles font vraiment un travail d'une grande subtilité, sur le coup vraiment du théâtre d'objets purs. Et donc là, elles se sont attaquées à raconter en 25 minutes les Métamorphoses d'Ovide. Sur le coup, c'est pas adressé à un jeune public, c'est vraiment du théâtre d'objets pour les adultes. Parce que nous aussi, on peut s'émerveiller des objets. Et donc, il y a ce spectacle-là, en fait, qui, du coup, débute en général les soirées, le jeudi et vendredi. Et après, on peut aller vers d'autres parcours, vers d'autres spectacles.
Oui, alors j'ai épinglé aussi complètement dans le désordre, mais parce qu'elle m'interpelle beaucoup, la Fury Room de Fanny Créon-Brulle et de la compagnie La Dalle, où on nous propose, effectivement, de pénétrer dans une fameuse Rage Room, donc ces endroits où on peut tout casser pour se défouler. On n'est finalement pas très loin, Ondine, de votre thème. Hein. Vous travaillez sur l'absence et la maladresse. Peut-être que la rage, c'est à l'autre bout du spectre, c'est l'archiprésence dans le moment, mais la maladresse aussi.
Peut-être.
En tout cas, là aussi, c'est un spectacle qui, pour vous, amenait une facette aussi de la métamorphose.
Oui, c'est vraiment extraordinaire. En fait, elle part, donc c'est une artiste que j'ai découverte en Suisse et qui vient de Suisse pour jouer son spectacle. Et elle part de de ce constat, c'est que les rage rooms sont principalement fréquentés par les femmes. Mm-hmm. Et donc, qu'est-ce qui ne serait pas exprimé dans la vie quotidienne qui, tout d'un coup, ferait qu'on ait besoin de détruire des objets? Et donc, ce qui est très, très plaisant, c'est que le spectacle commence et elle détruit un objet sur scène. Et donc moi, j'ai pas tellement envie d'aller dans une rage room, mais le fait qu'elle le fasse pour moi sur le plateau me fait beaucoup de bien. Et puis en fait, elle rentre dans cette analyse de pourquoi avoir envie de détruire des objets, et pourquoi on a du mal à exprimer la colère ou la rage ou la voilà, et elle traverse plein de situations de vie qui sont ponctuées par le fait de détruire des objets au fur et à mesure, et c'est très c'est un spectacle très exutoire sur le coup.
Un autre,
c'est du bien.
Oui. Un autre spectacle qui va se jouer, je pense, les trois soirs, qui est sans doute déjà complet, mais bon, sait-on jamais, on peut toujours se mettre dans la file d'attente, c'est À l'ombre, mon frère, premier texte d'Alexandra Castard, performé par Marie Dara, qui nous parle là des violences carcérales. J'ai l'impression que là aussi, en sous-texte, on a aussi une thématique qui revient souvent, c'est être dedans, être dehors, se libérer, être enfermé. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui traverse le festival ?
Oui, en plus, je vais parler du coup aussi de manière concrète, mais donc effectivement, le spectacle est presque complet, mais il ne faut jamais hésiter à venir trouver une petite place dans les salles. Mais en fait, on essaye aussi d'inviter justement les gens à voyager à travers le théâtre. Après, je vais revenir sur le projet en particulier. Et du coup, de visiter et nos salles de spectacle, mais aussi de manière différente. Donc, il y a des spectacles qui se passent à l'arrière du théâtre. Il y a la caravane, par exemple, elle est dans notre parking à côté du monde charge. Et en fait, c'est l'idée aussi, du coup, de pouvoir visiter, se voyager, transformer les choses. Et pour revenir à l'ombre, mon frère, oui, c'est un très beau texte. C'est le premier texte de théâtre d'Alexandra Castard. Et où effectivement, elle interroge justement cette question de avoir un membre de sa famille dedans et être dehors. Mm-hmm. Et qu'est-ce que c'est cette relation entre l'enfermement et l'extérieur? Et qu'est-ce que ça construit comme rapport singulier à travers une famille? Comment ça agit? Et c'est Marie Dara qui porte ce texte, une artiste magnifique.
Merveilleux performeuse. Ouais. Alors, ça va durer 3 jours. C'est vrai qu'on va quand même parler concret. Ça dure 3 jours. Ça commence le jeudi 12 mars jusqu'au samedi 14. Ça démarre à 18h30 les jeudis et vendredis et à 15h le samedi. Et il y a plusieurs spectacles, on l'a dit, il y a des formes courtes, ça va de 25 minutes à 1 heure maximum en général, ce qui veut dire que vraiment on peut rester une bonne partie de la soirée et voir plusieurs spectacles, c'est conçu tel quel.
L'idée c'est vraiment ça, c'est que le public puisse découvrir 3 spectacles sur les soirées du jeudi et vendredi, et puis le samedi du coup en après-midi il y a les projets plutôt tout public famille, et puis il y a aussi toute la soirée avec un karaoké de clôture où je vous invite avec grand plaisir. Et donc oui, on a un pass du coup aussi Métamorphose qui permet de voir 3 spectacles sur une soirée. Donc c'est conçu pour pouvoir faire son voyage. En général, 2 spectacles qui sont présentés en même temps. Et donc on peut choisir un peu son parcours. Et tout est fait pour que ce soit aussi, un moment, c'est le printemps, un moment où on profite de ce temps de transformation aussi qu'est le printemps.
Pour partir en voyage et peut-être en vacances avec Andine Cloez, qui sera donc sur scène tous les soirs aux environs de 19h30, si mes copions disent vrai. En tout cas, le festival Métamorphose, ça se passe au théâtre Varia du 12 au 14 mars avec un focus sur des spectacles plus familiaux le samedi, vu que ça démarre dès 15h. Toutes les propositions et tous les détails du programme sont sur www.varia.be. Eh bien, on vous souhaite un joli printemps à toutes les deux.
Merci.
La première, kiosque.
Vous ne savez pas comment occuper vos soirées en cette semaine printanière ou presque printanière, pas de panique, on a des bons plans pour vous. Fanny Cuisset.
Moi j'ai envie de vous parler de Lis-moi tout, c'est la grande fête de la lecture sous toutes ses formes, organisée par le Villard à Louvain-la-Neuve et le Rideau à Bruxelles. Alors pendant plusieurs jours, ce festival va mettre en lumière les écritures émergentes grâce à un appel de texte qui a déjà été réalisé auprès de jeunes auteurs et autrices de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et il y a eu une centaine de candidats et 4 textes ont été sélectionnés. Et ce sont des comédiens et comédiennes qui vont faire... qui vont donner vie à ces textes. Il y aura aussi des spectacles, des rencontres, entre autres avec Caroline Lamarche à Louvain-la-Neuve ou Myriam Leroy à Bruxelles, des noms qu'on connaît bien. Et cette année, la programmation se déroulera du 23 au 26 mars à Villard à Louvain-la-Neuve et puis du 15 au 18 avril au Rideau à Bruxelles. Toutes les infos pratiques et les rendez-vous sont disponibles sur les 2 sites des 2 théâtres.
Et bien voilà, un double festival dans 2 villes qui promet un beau programme. Quant à moi, un vrai coup de cœur que je vous recommande, Portrait de Rita, un spectacle à voir jusqu'au 21 mars au Théâtre National à Bruxelles. C'est un spectacle qui part d'un fait réel. C'était en 2023 près de Charleroi. Un enfant de 9 ans était victime d'insultes racistes à l'école et l'intervention de la police tournait à la violence contre cet enfant de 9 ans. L'autrice Lorraine Marx et la comédienne Boinga Pili Pili ont choisi de raconter cette histoire à travers le regard de sa mère, Rita, qu'elles ont rencontrée et interviewée, une femme camerounaise qui tente de protéger son fils dans un système qui la réduit et qui l'étouffe. C'est un spectacle puissant, très incarné, avec des sujets très lourds, mais contre toute attente, on s'émeut évidemment, mais on rit beaucoup aussi, c'est lumineux, c'est presque revanchard, ça croise les regards sur le racisme systémique, sur la maternité, sur les identités. C'est un théâtre vraiment nécessaire, ça interroge très frontalement notre façon de regarder les autres, et mention spéciale à Bouanga Pili Pili, qui est véritablement solaire et puissante sur scène, c'est vraiment à ne pas rater, c'est donc à voir jusqu'au 21 mars au Théâtre National, ça s'appelle Portrait de Rita. Kiosque, c'est fini pour aujourd'hui. Cet épisode était réalisé par Amélie Courtin et Perrine Lucas. Kiosque, c'est l'émission culturelle de la première consacrée aux arts de la scène. Si vous avez aimé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à retrouver nos autres épisodes en podcast sur Ovio ou sur vos plateformes d'écoute préférées. On se dit à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de la culture comme elle prend soin de vous.